10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
L'islam au présent, une heure pour parler d'islam, c'est tous les samedis sur Beurre FM entre 10h et 11h. Ravi de vous retrouver, ravi de vous revoir, Imam Abdelali.
Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de revivre ces moments tous les samedis, inshallah, en compagnie de toute l'équipe de Beurre FM et aussi de toutes nos auditrices, auditeurs fidèles, tous les samedis matin, je rappelle, de 10h à 11h, dans votre émission L'Islam au présent, afin de vivre quelques moments dans lesquels on fait des rappels, on répond aux questions. Et voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, qui est saison.
Que je n'ai plus rien à faire dans cette émission. Je vous regarde, je
m'assois sur le tabouret. Voilà, c'est moi qui parle.
Et puis je vous regarde.
Je fais un monologue.
Faire votre pub.
Voilà. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien là, j'ai rien dit là.
Bon, on va parler d'un sujet que vous connaissez bien et que c'est vrai que pendant 2 ans, on a été privé de voyage. Hein, 3 ans
ouais. 2020, on n'y a pas été. 2021, 2022, ça fait 3 ans.
2020, vous n'êtes pas allé?
Non, 2020, c'était en plein Covid.
Ah ouais.
Moi, j'étais à la Umrah en 2020, en février.
Oui, moi, je me rappelle.
Je suis passé par la Palestine.
Ouais.
Oui, mais c'était la Umrah, ça. Mais le Hajj de 2020, on n'y a pas été. 2021, on n'y a pas été. 2022, pareil. Et donc, là, 2023, on est déjà à 3 Hajj de planté.
Voilà, pour tout ça, pour dire que c'est la période du pèlerinage qui commence, parce que les inscriptions doivent se faire en amont. On part pas au pèlerinage comme on part pour un voyage normal, hein. Ça s'organise, mine de rien.
Tout à fait.
Combien de temps à l'avance il faut se préparer, à peu près, d'un point de vue pour les formalités quand on part depuis la France, Imam Abdelali?
Alors, ça dure pas très longtemps, les formalités, quelques semaines auparavant, c'est-à-dire à peu près un mois avant, on peut tout à fait être dans les temps pour pouvoir y aller et organiser et participer au pèlerinage. Parce que tout se fait maintenant, du moins cette année, pour l'année 2023, ça va se faire via une application qu'on appelle Nusuk. Donc c'est une plateforme, non pas qui va monopoliser l'intégralité des pèlerins, mais qui va proposer aux pèlerins de choisir parmi les sociétés saoudiennes, qu'on appelle en arabe les sherikat, celle qui va proposer ensuite plusieurs formules. Et vous pourrez donc choisir la sherika, et ensuite la sherika, vous allez pouvoir choisir la formule qui correspond à vos besoins, puisque la formule va, dans laquelle il va être précisé le nom des hôtels à Mecca et à Médine, et la prestation en détail.
Bah, ça veut dire qu'on va plus voir son agence comme c'était le cas traditionnellement.
Voilà.
Pour
ah bon ? Oui, il y a plus d'agence.
Ah, c'est terminé.
Il y a plus d'agence. Les agences officieusement peut-être pourront négocier avec les sherikat pour pouvoir drainer les pèlerins et drainer l'argent des pèlerins, parce que la problématique aussi,
c'est beaucoup d'argent quand même.
C'est énormément d'argent, ouais. qui va devoir être basculé de France vers l'Arabie Saoudite, et ça c'est pas du tout évident. Les autorités saoudiennes pensent que ça va pouvoir se faire aisément, alors que c'est pas du tout le cas. Ça va être compliqué. Donc je leur souhaite bonne chance pour pouvoir faire ça, mais sauf s'il, bien entendu, les sherikat, pas, puisque le problème c'est l'État saoudien, ce qu'on appelle Wizarat al-Siyaha, puisqu'aujourd'hui ça n'est plus le ministère du Hajj. Le ministère du Hajj est bientôt dissous, il n'est pas encore dissous mais ça va bientôt se faire, et c'est le ministère du Tourisme qui va reprendre les rênes.
Qui reprend les rênes du pèlerinage.
Ouais. Maintenant c'est plus, voilà, c'est intégré dans le tourisme global de l'État saoudien.
Il faut dire qu'il y a une vraie révolution, hein, en Arabie Saoudite pour ce qui concerne la politique affichée de tourisme. Hein,
Mais pas que. En général, il y a une véritable révolution des mentalités, des mœurs et tout ça, qui est en train largement de s'alléger de perdre de sa radicalité. L'Arabie Saoudite veut impérativement sortir de son statut d'État intégriste, etc., qui a longtemps gardé une grosse tache par rapport à ça. Et donc Mohamed Ben Salman souhaite, en tout cas, il met tout le paquet pour que l'Arabie Saoudite soit un pays, on va dire, acceptable et avec qui il est possible de discuter.
Alors, Imam Abdelali, on parle, en tout cas, explosion entre guillemets, hein, du prix du Hajj. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui que...
Oui, tout à fait. Là, on est, pour le plus bas prix, on est autour de 8000 euros.
Hein ?
Ouais, 8000 euros, 8500. Le plus haut, alors ça c'est très haut de gamme, on est à 14-15 000 euros. mais c'est le très haut de gamme, très très haut de gamme, c'est-à-dire suite royale avec vue sur le haram, etc. Bon, ça c'est le très haut de gamme, hein, je dis bien. Et puis avec un bus privé, etc.
Ah oui.
Et à Minen, vous êtes pratiquement dans une chambre à vous tout seul là-bas. Donc oui, ça c'est le très haut de gamme. Mais vous avez.
Mais on va dire le ticket moyen aujourd'hui.
Le ticket moyen, il est autour de 9-10 000 euros. Hein, pour avoir un hôtel confortable à Médine et à Mecca, surtout à Mecca, parce que Médine, c'est rien. Et puis, notamment, une prestation, une khad des khadamet à Minen qui soit confortable. Mais moi, je rappelle à tous nos auditeurs que tout ça, c'est pas important. Où que vous soyez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le plus important, parce que de toute façon, vous allez vous habituer à marcher et à souffrir un petit peu et à vous confronter à la promiscuité avec la foule, etc. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est l'encadrement religieux. Assurez-vous que les sociétés qui vont vous prendre en charge aient un encadrement le plus parfait au niveau religieux. C'est-à-dire que quand vous arrivez là-bas, qu'il y ait un guide qui vous ramène à la Kaaba, qui vous fait faire les rituels, et qui vous fait avec toutes les invocations, vous êtes sûr d'avoir fait les choses correctement, qu'il n'y a aucun doute sur la validité, parce que tout cet argent-là, finalement, c'est bien pour accomplir des rites, et on sait que les rites sont très encadrés, sont très spécifiques, ils doivent se faire d'une manière très, très spécifique, justement, on en parlera par rapport à cette question.
Les rites, pour valider tout cas les rites du
pèlerinage, et pour être véritablement un vrai hajj, sans avoir commis d'erreur.
Mais comment les gens le savent avec une application, alors qu'ils ont opté pour un encadrement religieux.
Il va y avoir normalement, grâce à une discussion qui va se faire entre les guides religieux et les charikats saoudiennes, pour que à la fois ces guides-là puissent drainer des pèlerins vers la charika et en même temps l'engagement du guide d'encadrer tous ces pèlerins durant le voyage et donc il sera, contractuel de la charika pour qu'ils puissent encadrer ces pèlerins et que les pèlerins, effectivement, aient leur guide qu'ils ont choisi. Donc moi, je vous invite à ne pas choisir aveuglément la charika avec laquelle vous y allez, mais avant de faire cela, vous renseignez auprès d'un guide religieux pour savoir celui avec qui vous voulez aller, eh bien qu'il a bien choisi la bonne charika pour que vous puissiez partir avec lui.
Mais le guide religieux que vous choisissez, il est forcément avec une application ou une agence, ou dans un package, non ?
Non, il n'est pas. Il est en rapport avec la charika. Je répète, la société saoudienne, c'est elle qui peut avoir la possibilité de discuter, de choisir et de sélectionner ses guides. À partir de là, le guide, en contrepartie, va orienter ses pèlerins vers la charika pour qu'elle choisisse la bonne formule qu'il va choisir lui et pour qu'il puisse s'occuper de ses pèlerins dans le même hôtel avec eux, dans les mêmes tentes à Minan et Arafat, etc.
Voilà. Qu'est-ce que ça change pour les guides qui avaient l'habitude de partir de France, auparavant, ils sont où ces guides-là ?
Auparavant, les guides négociaient leurs tarifs avec les agences. Là, aujourd'hui, ils vont négocier leurs tarifs avec les charikats, avec les sociétés saoudiennes, puisqu'il n'y a plus d'agences intermédiaires. Les agences ne sont plus intermédiaires. Les agences pourront peut-être discuter avec les charikats pour leur dire, voilà, moi, je peux vous drainer à la fois les pèlerins et leur argent si vous me donnez une commission. Bon, ça, pour l'instant, on attend. Ça, c'est officieux. C'est pas officiel. Officiellement, pour les autorités saoudiennes, le ministère du tourisme, elle n'a comme interlocuteur que les charikats. Les charikats, elles se débrouillent pour ramener les pèlerins et l'argent et la logistique. Donc, les charikats n'ont de compte à rendre qu'au ministère et aux inspecteurs du ministère du tourisme, ou ce qu'on appelle le ministère du Hajj. Qui auront bien entendu le rôle de surveiller, de s'assurer que les prestations correspondent au contrat qui a été signé et engagé entre le pèlerin et la charika, puisque bien entendu l'État saoudien va tenter de protéger, va faire tout ce qui est possible de protéger les intérêts du pèlerin. Pas d'attendre qu'elle rentre en France pour porter plainte contre un fantôme qui est en Arabie Saoudite, une charika étrangère, mais sur place, le pèlerin pourra réclamer avec un numéro de téléphone accessible partout pour pouvoir porter plainte auprès d'un inspecteur du pèlerinage et s'assurer que sa prestation soit au rendez-vous de ce qu'il a payé, ce pourquoi il a payé. Il a payé pour avoir tel hôtel, tel nombre d'étoiles, les repas, midi, soir ou demi-pension, pension complète, etc. S'il manque quelque chose, il est en droit d'appeler le ministère et de s'assurer que la prestation soit au rendez-vous. Voilà, mais il y aura des aléas.
C'est la première année, de toute façon, que ce système-là.
Voilà, que tout ce système-là
se met en place. L'année dernière, il y avait encore un autre système hein, qui. qui n'a pas beaucoup fonctionné d'ailleurs, hein, le système l'année dernière.
Tout à fait, ça a été un fiasco, on peut dire que les choses telles qu'elles sont, hein, puisque l'année dernière, les pèlerins, il n'y en a eu que seulement 500 de France, parce qu'il y en a qui disent, ouais, 1000 et quelques, ce n'est pas vrai.
Mais c'est rien du tout.
C'est 500 et quelques de France, et pour pouvoir éviter les pertes sèches de la fameuse plateforme Motorwif, qui l'année dernière avait pris en charge l'intégralité des pèlerins de France, qui avait 9000 places, hein, il y avait 9000 disponibilités, mais seulement 500 ont eu la confiance d'envoyer leur argent ou tout simplement ont pu le faire, parce qu'il y en a qui, parce que ce sont des particuliers, ils peuvent pas comme ça de leur compte bancaire faire un transfert de 9000, 10000, je sais pas combien d'euros, s'ils sont deux, bah c'est 17000 ou 18000, voilà, ils peuvent pas comme ça d'un claquement de doigts faire ce virement bancaire. Donc c'est compliqué, ça a été compliqué. L'année dernière, les choses ont été compliquées, ce qui fait que ça a été un véritable fiasco. Même les pèlerins n'ont pas été satisfaits, surtout au niveau religieux, n'ont pas été encadrés. Ils ont eu droit à Arafat, un petit discours d'un incompétent qui est venu pendant 10 minutes pour leur faire un petit discours soi-disant spirituel, mais qui, bon, reprenait le même langage wahhabite des chouïours d'Arabie Saoudite sur le haram et le halal, ce que vous avez le droit de faire, alors que les pèlerins attendaient plutôt un discours spirituel, quelque chose qui leur permet d'élever leur foi. Eh bien voilà, ils ont eu droit à ça, et ça c'était à Arafat. Le reste du temps, il y avait rien du tout, c'était l'encadrement logistique, c'est tout, purement et simplement. Après, pour le tawaf, le sa'i, ça, ils se débrouillaient, ils savaient même pas quand il fallait le faire, ils avaient pas du tout d'idée qu'est-ce qu'ils pouvaient. Donc il y a eu même des plaintes, des pèlerins qui étaient angoissés, qui étaient stressés tout au long du voyage, parce qu'il n'y avait pas d'encadrement. Donc je rappelle à tous ceux et toutes celles qui veulent partir cette année de vous assurer que vous avez bien un mourchid, c'est-à-dire un guide religieux qui part avec vous de France, qui part de Roissy à Roissy, qui vous fait l'aller-retour et qui s'assure de votre encadrement tout au long du voyage. Si vous l'avez pas, c'est pas la peine de vous garantir ouais l'hôtel un tel, le transfert avec les bus, ça tout ça c'est du n'importe quoi. C'est facile ça. Vous êtes pas là-bas pour faire du tourisme, vous êtes là-bas pour accomplir votre cinquième pilier qui est le Hajj, qui je le rappelle a des règles et des pratiques spécifiques. On en reparlera inchallah juste après la pause.
Voilà, et vous êtes nombreux à vouloir partir cette année, donc on verra dans quelles conditions. On parle du Hajj ce matin, c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
L'islam au présent, c'est tous les samedis. Ah, vous vous grattez, Imam Abdelli ? Qu'est-ce que vous avez ?
Oui, parce
vous avez
que
la grattose.
Il y a les orties qui vont arriver bientôt et ça pique. Les
ah, mais il ne faut pas vous rouler dans l'ortie.
Ce qui paraît, c'est, ça a beaucoup
c'est très
de vertus.
Bon pour la circulation du sang. Ah, ouais, bah, ça vous fera le plus grand bien.
Dès que je vous passe à côté d'un
champ d'ortie,
je fonce dans deux.
Voilà, vous y allez.
Torse nu.
Non, mais là, les orties.
Si je meurs, c'est ta faute.
Les orties, ils vont avoir peur.
Ah bon ? Ouais. Ils vont m'ouvrir le passage.
Oh mon Dieu.
Attention la baleine.
Sortez-moi de là. L'imam Abdelali Mamoun avec vous tous les samedis sur Beurre FM. On parle du Hajj puisque c'est la saison de préparation.
Tu me rappelles le Ramadan, Philippe. C'était magnifique, hein, n'est-ce pas? Tu te rappelles comment c'était sympa?
Si vous continuez.
Moi, je suis déjà nostalgique du Ramadan.
Si vous continuez l'année prochaine, je vous fais faire Shawwal, mais on fera les 30 jours de Shawwal. Voyez.
Carrément.
Ah ouais, on fera une bida. Ouais. Voilà.
Hassana.
Ah ouais, Hassana.
Appréciable.
30 jours.
Ah Allah, bismillah. C'est pas interdit de jeûner tout le mois, c'est pas interdit. Le mois de Shawwal.
Je croyais qu'on pouvait pas jeûner tout le mois.
On jeûne 6 jours parce que le prophète a recommandé 6 jours. Mais celui qui a envie de jeûner tout le mois, le prophète souvent il jeûnait des mois.
Mais est-ce qu'en dehors du mois de Ramadan, c'est recommandé de jeûner tout un mois ?
Aïcha nous rapporte, parce qu'elle vivait avec le prophète, que des fois le prophète jeûnait tellement de jours successivement qu'on pensait qu'il n'allait plus s'arrêter. Et des fois, il s'arrêtait de jeûner, ce qu'on dit, bah, c'est bon, il va plus jeûner, là, c'est fini, le jeûne.
Mais pour Shaban, mais pas pour Shawwal.
Je te parle de ce que Aïcha constate dans la vie, au quotidien, de ce qu'elle a vécu avec le prophète. Toutes les années, elle était sa femme. Des fois, elle jeûnait, des fois, continuellement. Des fois, elle jeûnait, il s'interrompait, voilà. C'était très aléatoire. Mais il y a, des mois spécifiquement, bien sûr, le Ramadan, on n'en parle pas, il jeûnait tout le mois, bien sûr, comme tout le monde. Mais vous avez quand même Shaban, le prophète jeûnait très la plupart du temps le mois de Shaban intégralement. Il jeûnait presque tout le mois de Muharram, le premier mois du calendrier lunaire. Muharram est ce qu'on appelle le mois par excellence surérogatoire du jeûne. Il y a Ashura, il y a Tasua, etc. Et bien sûr, il jeûnait Arafat. Et il jeûnait des fois, parfois il se disait lundi, mardi. Il jeûnait des jours et des jours. Ce qui est déconseillé par contre, c'est de jeûner le vendredi tout seul, ou de jeûner le samedi tout seul. C'est-à-dire, si on jeûne un vendredi, il faut jeûner un jour avant ou un jour après. Et quand on veut jeûner le samedi, on jeûne un jour avant ou un jour après, en plus de samedi ou du vendredi. Mais sinon, bismillah, le jeûne, on peut jeûner quand on veut. Hein. Le jeûne est une pratique. Quand on dit « l'il-jannati babun yuqal laha ar-rayyan », le paradis a une porte qui s'appelle Rayyan et qui est accessible. « La yadkhuluha illa as-sa'imun », que seulement aux jeûneurs. Eh bien, c'est pas simplement ceux qui jeûnent le ramadan. C'est ceux qui ont l'habitude, justement, et qu'on appelle, qu'on va qualifier de « sawwamun », les gens qui jeûnent à « sawwamun », ceux qui jeûnent très souvent dans l'année. Donc, ceux qui veulent rentrer par cette porte-là spécifiquement, eh bien, ils ont qu'à à jeûner beaucoup courant de l'année.
Bab Rayyan. Alors, Imam Abdelali, que dit le Coran sur le Hajj ?
Alors, il y a beaucoup de versets. Hein. D'abord, je vais vous réciter un verset qui nous parle justement pourquoi Dieu a choisi ce lieu spécifique. Alors, d'abord, je voudrais, avant de répondre à ta question, à lire le Coran, permets-moi quand même d'expliquer aux auditeurs, auditrices, quelle est la particularité du pèlerinage à la Mecque. Vous savez que toutes les actions que l'on fait, tous les actes d'adoration, notamment les piliers, eh bien, sont assujettis à un moment, à une manière de le faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle des actions spécifiques que l'on va faire dans des moments spécifiques. Hein, sauf la zakat qu'on peut faire, effectivement, on peut la payer la zakat quand on veut. Mais on va dire, essentiellement, il y a souvent un moment spécifique pour la prière, pour le ramadan, etc. Vous avez des moments spécifiques, les prières surérogatoires, les prières obligatoires dans la journée, et se font à des moments spécifiques. Le pèlerinage à la Mecque, il inclut ces conditions qu'on vient d'évoquer. Une manière spécifique, un moment spécifique, mais il a la particularité d'imposer un endroit spécifique. La prière, tu peux prier n'importe où. La prière, tu peux prier chez toi, en France, aux États-Unis, n'importe où, dans le monde entier, en Afrique, etc. Mais le seul endroit où tu peux faire le pèlerinage, c'est seulement à la Mecque. Il n'y a pas de Mecque ailleurs qu'à Mecca, qui se trouve aujourd'hui, on le sait bien, en péninsule arabique, à l'intérieur du territoire qu'on appelle le Royaume d'Arabie Saoudite, et qui est dans la région ouest de la péninsule, et qui est une ville à part entière, avec en son centre le grand sanctuaire sacré qu'on appelle Al-Masjid al-Haram, dans lequel on accomplit le pèlerinage, et dans ses alentours, bien entendu, les différentes stations du pèlerinage, Minan, Arafat, Muzdalifa et Jamarat, etc. Donc voilà, pour ce qui est les spécifiques. Donc, celui qui doit aller là-bas doit le faire que seulement à Al-Masjid al-Haram. Et Dieu nous explique pourquoi dans le verset que je vais vous réciter. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Certes, la toute première demeure que Dieu a érigée pour que vous puissiez y adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui se trouve à Bakka. Bakka, c'est un surnom de Mecca. Mubarak al-Beni. Avec un B. Bakka. Voilà, effectivement. Dans le verset du Coran, il dit Bakka. La ladhi bi Bakka. Bakka. Et Bakka, c'est Mecca, bien entendu. Mubarakan wa hudan lil alamin. Une bénédiction et une guidance pour l'humanité, pour tous les mondes. Il y a en son sein des signes évidents. Fihi ayatun bayinat. Quoi? Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, c'est un rocher qui est aujourd'hui enveloppé dans une sorte de kiosque en verre blindé, qu'on ne peut pas percer. Personne n'a réussi de toute façon à percer ce verre dans lequel se trouve ce maqam Ibrahim. Alors c'est quoi? C'est un rocher dans lequel s'est enfoncé les pieds de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Elle se trouve à l'ouest, à quelques mètres, je dis bien à une dizaine de mètres, à l'ouest de la Kaaba. Donc juste après la pierre noire, quand vous commencez la rotation, la première chose que vous croisez, c'est justement ce petit kiosque où se trouve Maqam Ibrahim. Alors, c'était quoi à l'origine? Ce rocher, c'était tout simplement l'échafaudage sur lequel Sayyidina Ibrahim alayhi salam montait dessus, ce qu'on appelle un échafaudage rudimentaire. Il montait dessus afin de pouvoir surélever le mur de la Kaaba, puisque au fur et à mesure qu'il construisait la Kaaba, eh bien, il a érigé un mur et il utilisait cet échafaudage, cette pierre surélevée dans laquelle il pouvait monter dessus et poser les briques pour pouvoir construire la Kaaba.
Et dans quelles conditions il a découvert alors la Kaaba ?
Alors, il a tout simplement trouvé des fondations. Puisque dans le Coran, il est dit « Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id ». Donc les qawa'id, elles existaient. Les qawa'id, ça veut dire les fondations. Les fondations, on dit qu'elles avaient déjà été construites à l'époque de Sayyidina Adam alayhi salam, par Adam et par sa femme, etc.
Donc il découvre les fondations.
Et là, à ce moment-là, il décide de surélever les fondations. Et Dieu, dans le Coran, confirme qu'il a surélevé, il a construit sur les fondations.
Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id. Il est tout seul.
Il est avec son fils Ismaël alayhi salam, bien sûr, oui. Et il se fait aider par son fils, qui lui-même va même construire un petit muret. Un petit muret rond qui se trouve côté nord, hein, la partie nord de la Kaaba, eh bien, il y a un petit muret rond, un demi-cercle comme ça, qu'on appelle le muret de Ismaïl, Hijr Ismaïl.
Et aujourd'hui, l'actuelle Kaaba est exactement à la même place ?
Oui, tout à fait.
Tout à fait.
100% sûr. La Kaaba se trouve au même endroit que Adam depuis la création d'Adam. Eh bien, cet endroit-là existait. Simplement, quand Ibrahim alayhi salam arrive et laisse sa femme tout seul, bah, il trouve effectivement le Qawaid. Il sait que là, c'est l'endroit où se trouve, il reçoit la révélation. Mais il laisse sa femme, seule avec son bébé. Il sait que, Dieu va prendre en charge sa femme, et du moins son bébé et sa mère, Hajar, et que des tribus vont venir et finalement construire un village. Un village qui deviendra Umm al-Qura, la mère des villages, hein, qu'on appelle Umm al-Qura, traduction, mère des villages, la capitale de l'Arabie, puisque elle deviendra le centre du sanctuaire sacré dans lequel seront, on va dire, la destination et l'orientation de tous les habitants de la péninsule arabique, et dans lequel ils pourront adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors certains vont adorer Dieu seul, sans associer. D'autres vont dire, ben non, mais Dieu, on peut lui associer des divinités, donc ils vont associer des idoles. Mais tous sont des adorateurs de Dieu, attention. Hein. Tous, même les Arabes qui étaient des qu'on appelle les mouchriquines, les idolâtres, et adoraient Dieu. Ils adoraient Allah. Ils disaient Allah. Il y avait même des gens qui s'appelaient Abdullah dans la Jahiliya, avant l'avènement d'Islam. Donc Allah était un nom connu qu'on appelait Dieu, le Dieu du ciel. Mais ils disaient, ces mouchriquines, que nous allons adorer et vénérer des idoles afin qu'elles nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Donc ce sont des intermédiaires pour aller vers Dieu. Eh bien cela, Allah Azza wa Jalla l'a considéré comme du polythéisme, de l'associationnisme, du shirk al-akbar, le grand shirk qui exclut le croyant de la religion. Hein, puisque ces gens-là qui venaient faire le pèlerinage, ils disaient « Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, illa sharikan huwa lak ». Hein, nous n'associons pas de divinité sauf ceux que tu as choisi pour nous, pour qu'ils soient des intermédiaires entre toi et nous. Donc dans leur formule de pèlerinage, ils y associaient le polythéisme. Et bien le prophète est venu et a enlevé ce rajout, hein, sauf le fameux sauf, là il l'a enlevé et il a laissé la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Il le répète à deux reprises, tu n'as pas d'associé. C'est un monothéisme pur et authentique.
D'accord. Mais ce qui veut dire que auparavant il y avait déjà des pèlerinages qui se faisaient à la Mecque.
Tout à fait, les Arabes allaient accomplir le pèlerinage. Abraha, l'année...
On l'appelait comment ce pèlerinage ?
Le Hajj, c'était déjà, le même terme.
Ça s'appelait le Hajj.
D'accord. Abraha a même été jaloux, puisque nous parlons d'un roi d'Éthiopie qui est venu régner sur le Yémen et qui avait construit une église chrétienne et qui a demandé aux Arabes de venir accomplir le pèlerinage. C'est dans cette église-là qui s'appelait le Kolaïs. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, Abraha al-Habashi a demandé aux Arabes, puisque nous sommes l'année de la naissance du prophète, l'année de l'éléphant, eh bien, de venir accomplir. Ils ont dit non, on va pas, nous, on a déjà notre Kaaba à la Mecque, on va pas abandonner la Kaaba pour ton église. Donc ça va pas lui plaire, il va venir essayer de détruire la Kaaba et Dieu va envoyer les fameux oiseaux pour qu'ils disparaissent, pour qu'il, lui et son armée, meurent et disparaissent.
C'est quoi ces oiseaux?
Ce sont des ce qu'on appelle Tayran Ababil, les fameux Tayran Ababil, les martinets. Ce sont des martinets de l'enfer qui portaient des cailloux de l'enfer et qui ont jeté des pierres en fusion sur l'armée de Abraha. Ils sont tous morts. Ça, c'est l'année de la naissance du prophète. Donc, il n'y avait pas de révélation, il n'y avait pas de Mohammed Sallam. Le prophète venait de naître et cette année-là, il y a eu cet événement où Abraha meurt. Donc, Abraha mourant, ça montre bien que les Arabes étaient soucieux d'accomplir le pèlerinage à la Mecque, mais là, en plus d'être soucieux d'accomplir, ils avaient l'obligation d'y rentrer en paix. Parce que celui qui allait oser rentrer pour profaner la Kaaba, eh bien, craignait de subir le même sort que Abraha. C'est-à-dire qu'il reçoit des cailloux sur la tête. Et donc ça a été un véritable avantage, un privilège pour le prophète pour permettre que les Arabes se convertissent à l'islam, puisque à l'intérieur de ce sanctuaire-là, personne ne pouvait faire du mal à quiconque. Bon, bien sûr, les Quraysh, eux, ils gênaient pas de profaner tout le temps cette règle-là. Mais voilà, en tout cas, les Arabes qui venaient de l'extérieur, eux, le respectaient.
L'imam Abdelali Mamoun est avec nous jusqu'à 11h. C'est l'islam au présent sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et on parle du Hajj avec l'imam Abdelali Mamoun. C'est le moment aussi où les inscriptions au Hajj sont ouvertes, hein, imam Abdelali. On peut déjà, d'ores et déjà, s'inscrire pour partir au Hajj.
Oui, tout à fait. Dans le site Nusuk, Hajj Nusuk, hein, vous pouvez effectivement, Nusuk, N-U-S-U-K, hein, pour ceux qui n'ont pas eu encore la procédure, peuvent aller déjà remplir leur profil et peut-être même bientôt commencer à choisir et à sélectionner la sharika avec laquelle ils vont pouvoir y aller. Mais je vous invite à vous assurer de ne pas partir de France si vous n'êtes pas accompagné par un guide. Et d'imposer, tout simplement, de prendre le temps, ne précipitez pas, vous jetez pas la gueule directement, la tête dans la gueule du loup. Voilà. C'est ça. Et faire n'importe quoi et partir finalement, passer un pèlerinage catastrophique. Donc, assurez-vous que vous avez bien un guide. C'est le plus important, c'est le guide. Si vous avez le guide, tout se passe bien.
Combien de pèlerinages on doit faire dans sa vie?
Une fois. L'obligatoire, c'est une fois. Le prophète s'est adressé aux compagnons dans le cadre de ce verset que je viens d'évoquer, puisque Dieu dans le verset dit Walillahi 'alan nas, c'est le verset que j'ai récité juste avant la pause. Walillahi 'alan nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Dieu a à l'égard des gens l'obligation d'accomplir le pèlerinage pour celui qui en a les moyens.
À partir du moment où on a les moyens, on doit partir, mm-hmm. ou on doit y aller le plus tard possible?
Non. Dès qu'on a les moyens, ça devient immédiatement obligatoire. Dès que vous avez les moyens. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que les moyens? C'est trois choses. C'est les moyens financiers, à la fois pour le trajet sur place et les gens que tu laisses derrière toi, parce que si tu as des enfants, il faut aussi, qui c'est qui va s'occuper d'eux, qui va leur donner à manger, donc s'assurer de leurs besoins pendant votre absence. Donc tout, assurer le voyage, etc. Donc financièrement, donc première condition, les conditions de santé. Si vous êtes malade, si vous n'êtes pas en bonne condition physique, c'est pas la peine d'y aller. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Donc si vous avez la condition physique pour y aller, vous devez y aller. Et troisième, la disponibilité, parce que vous avez des gens qui peuvent pas. Ils n'ont pas de congé, travail, ils n'ont pas de congé. Ou une femme qui a des enfants en bas âge, elle peut pas les abandonner et puis partir et laisser les enfants en bas âge. Voilà, donc il y a toutes ces... Donc la disponibilité est indispensable comme condition d'obligation d'accomplir le pèlerinage. Sahata wujubi, sahata shurut ou sahati wujubi al-hajj. Donc voilà. Et bien entendu, et aussi on peut ajouter à cela toutes les conditions de trajet, telles que par exemple l'obtention du visa. Si dans un pays arabe, eh bien ça se passe par le khura, c'est-à-dire le tirage au sort, et que moi j'ai le temps, j'ai l'argent, j'ai la disponibilité, j'ai la santé, j'ai tout, mais je n'arrive pas à avoir
être tiré au sort.
Ben voilà encore, je suis pas responsable de mon incapacité de pouvoir partir, parce que je suis obligé d'y aller avec dans des conditions légales et pas en fraude.
Quelles sont les conditions à remplir, donc les autres conditions pour partir à la Mecque?
Eh bien, comme je disais, non, il n'y en a pas d'autres.
Il n'y en a pas d'autres.
Il n'y en a pas d'autres. C'est la santé, l'argent, les moyens financiers, le trajet, l'itinéraire, c'est-à-dire qu'ils soient un itinéraire sécurisé. Il ne faut pas que je risque de mourir sur le chemin.
Il y a beaucoup de questions qui reviennent tous les ans. Est-ce que si j'ai un crédit en cours, si je dois de l'argent à quelqu'un, est-ce que je peux partir? Enfin, vous voyez, toutes ces questions qui reviennent sans cesse.
Alors ça, c'est des conditions de validité. Ce n'est pas des conditions d'obligation.
D'accord.
C'est des shurut ou sahat al-hajj. Effectivement, si moi, je dois de l'argent à quelqu'un et que cette personne-là... mon créancier, c'est-à-dire constamment m'envoie des lettres de mise en demeure, de poursuite judiciaire, etc. Et moi, au lieu de lui rendre l'argent que je lui dois, je veux avec cet argent-là payer mon pèlerinage. Ben, bien entendu, vous pouvez pas y aller, c'est n'importe quoi. C'est absurde de vouloir faire le pèlerinage alors qu'il y a des gens, on a des huissiers ou bien des créanciers qui nous courent derrière pour nous, qui nous réclament leur argent et qui est légitime. Quoi. C'est-à-dire, que ça soit vraiment réel. Ben non, vous pouvez pas partir à la Mecque alors que vous avez des dettes. Par contre, si j'ai un crédit vis-à-vis de quelqu'un ou d'une banque, quoi que ce soit, mais que j'arrive à payer mes mensualités, même si je pars à la Mecque, j'aurai encore de l'argent qui permettra les versements normal, sans que cela cause de soucis au niveau des créances, etc., que je paierai tous les mois. Eh bien oui, là, à ce moment-là, je peux y aller à la Mecque, je peux y aller.
Donc, alors, voilà. Quelles sont les différentes étapes du Hajj ?
Alors,
ça commence à quel moment, le
Hajj ? Au moment où on est...
Le Hajj, en fait.
Le Hajj, il commence au moment où est-ce qu'on va franchir le Miqat. Alors, qu'est-ce que c'est que le Miqat ? Le Miqat, c'est une frontière qui se trouve plus ou moins éloignée quand, selon la direction de la Mecque vers où vous dirigez. Si vous êtes vers le nord, eh bien, c'est 400 km. Si vous êtes vers l'ouest, par exemple, vers la mer Rouge, eh bien, c'est jusqu'au bord de la mer, jusqu'à la mer Rouge. Donc, l'aéroport de Jeddah est à l'intérieur de ce Miqat. Donc, il ne peut être franchi qu'en état de sacralisation et avoir fait la niyya. La niyya, c'est-à-dire l'intention. Le fait de dire « Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj ». Oh mon Dieu, je veux répondre à ton appel afin d'accomplir la Umra et ainsi que le Hajj qui va s'en suivre, moyennant une capacité de se désacraliser, de se mettre dans un état de jouissance, de d'aisance, de désacralisation entre ma Umra et mon Hajj. Voilà ce que ça veut dire la phrase, hein, pour que les gens comprennent qu'entre la Umra et le Hajj, on peut enlever son ihram. Avec, à partir du moment où la niyya de tamattu', c'est une des trois catégories du hajj que je n'expliquerai pas ce matin parce qu'on n'a pas le temps. Donc ensuite, après avoir franchi la frontière du Miqat, je me dirige vers la Mecque, donc je m'installe, etc. Mais je vais faire d'abord mon tawaf, ce qu'on appelle la tawaf du Umrah. Je vais faire les 7 tours autour de la Kaaba, hein, 7 tours en partant de la pierre noire. Je ne rentre pas dans les détails encore une fois. Dès que j'ai terminé, je vais faire les 2 rak'at à Maqam Ibrahim. Ensuite, je monte sur le mont Safa. Et je fais les 7 fois aller-retour. Aller, un aller ça compte 1, un retour ça coûte 2. Ça compte 2.
Ça fait combien de...
Ça fait 7. Non, donc je commence au Safa.
De kilomètres, ça fait quelle distance ?
550 mètres la longueur d'un trajet, fois 7, ça fait à peu près...
Oui, ça fait 4 kilomètres.
Ouais, à peu près 4 kilomètres, tout à fait. Donc ça, c'est quand même, hein, on marche, hein, et ça dure au moins une bonne heure. Hein. Une bonne heure, Philippe, tranquille, une bonne heure. Sachant qu'entre les deux, entre Alam al-Akhdarin et Batn al-Wadi, qu'on appelle Batn al-Wadi, il est conseillé de courir. Pour les hommes, bien sûr. Les hommes, ils courent et ils se mettent à courir le harwala, ce qu'on appelle harwala. Et à la fin, on va se désacraliser. À la fin, on va se couper les cheveux pour pouvoir remettre ses vêtements cousus, puisqu'on est en étoffe. On a mis les étoffes du ihram. Hein, pendant tout ce rituel, nous avons mis de l'avion directement avant de franchir la frontière.
Et tout le monde est habillé comme ça.
Les hommes. Les hommes. Ouais. Ah oui, les femmes, non. Les femmes, ça serait une catastrophe. Si les femmes devaient s'habiller en ihram, là, ça serait chaud. Non, les hommes s'habillent en état d'ihram. Les femmes restent habillées convenablement, mstora et tout ce qu'il faut. Après cela, on attend le 8 Dhul-Hijja, le calendrier lunaire, le 12e mois du calendrier lunaire. Nous sommes le 8, c'est la veille de Arafat. Là, cette année, ça va être le 27 juin. 27 juin, c'est Arafat. Donc, le 26 juin, qu'on appelle Yom Tarwiyah, le jour de Minan. Le 26, on va monter à Minan. À Minan, on va se reposer, s'installer. C'est en principe qu'on appelle Tarwiyah, c'est pour irriguer et arroser les bêtes que l'on a amenées avec nous pour les sacrifier pour l'Aïd. Hein, on va, ce qu'on appelle Tarwiyah, c'est parce que les gens apportent avec eux. Dieu, dans le Coran, il dit « Wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah ». El mahillah, ça veut dire Minan. C'est là où est-ce que l'abattoir, le grand abattoir, un immense abattoir qui peut accueillir jusqu'à 2 millions de bêtes et qui sont égorgées les jours de l'Aïd, le premier, deuxième, troisième, et qui correspond chaque numéro à un pèlerin qui a payé son ticket, un ticket de mouton, à peu près 200 euros, même pas 150 euros. Et donc à partir de là, les pèlerins, le lendemain, se préparent pour aller à Arafat. À Minan, ils ont fait leur prière, chaque prière à l'heure, mais raccourcie, de 2 unités au lieu de 4 pour les prières Rubaïa, les 4 rak'ats. Et le lendemain, il part à Arafat pour y accomplir Dhor et l'Asar raccourci et rassemblé. Dhor avec l'Asar, 2 rak'ats et 2 rak'ats à l'heure de Dhor. Et après, bien entendu, il y a le sermon de l'imam, il y a un encadrement, il y a une animation, il y a des activités spirituelles, il y a des récitations du Coran, il y a des évocations, il y a des invocations, surtout à la fin de la journée, là où on est invité à sortir des tentes et se mettre au soleil. Le soleil devant nous, il va se coucher. Hein, il est vers la Kaaba, puisque nous sommes au sud-est. Donc le soleil se couche à peu près pratiquement au nord-ouest. Hein, et donc c'est la direction de la Kaaba. Et au moment où est-ce que nous faisons les invocations, le soleil se couche. Et comme le dit le prophète, il aspire avec lui tous les péchés des gens qui se trouvent sur le mont Arafat, le jour de Arafat. et les gens, donc le soleil qui se couche avec vos péchés, alhamdoulillah, vous partez allégé et soulagé de tous vos péchés le jour de Arafat, au moment où le soleil se couche. À partir de là, vous partez, vous allez à Muzdalifa et vous restez là-bas la nuit afin de pouvoir faire le zikr, إذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Vous devez évoquer le nom d'Allah auprès de Al-Mash'ar al-Haram. C'est un endroit qui se trouve à Muzdalifa, où, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de Dieu la bonne nouvelle que Dieu allait dédommager les péchés de tous ceux qui ont fait du tort aux autres. Hein, ce qu'on appelle du kaffir anhum sayyi'atihim. Voilà. Ensuite, le pèlerin, le lendemain matin, prit le fajr, après avoir pris le maghrib et l'isha là-bas regroupés, maghrib et l'isha de rak'at. Le lendemain matin, c'est le jour de l'Aïd, nous sommes le 10 de l'Hijja, c'est le jour de l'Aïd. Dans le monde, les gens égorgent les moutons, vont faire la prière de l'Aïd dans les mosquées, c'est la grande fête de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, la fête de l'Adha, l'Aïd al-Kabir. Eh bien, nous aussi, nous avons mandaté quelqu'un pour faire l'abattage rituel, mais nous, pèlerins, nous allons nous diriger vers la Jamrat al-Aqaba, où nous allons jeter la grande Jamarat, les 7 cailloux dans la grande Jamarat. Ensuite, nous dirigeons à la Mecque pour faire le tawaf et le sa'i qu'on appelle le tawaf al-Ifada, le tawaf obligatoire. Hein, du jour de l'Aïd. 7 tours et Safa al-Marwa, bien entendu. Là, on a le droit de le faire, on est en état de désacralisation. Parce qu'après avoir jeté les cailloux, on a le droit de se couper les cheveux et de se désacraliser avant de faire le tawaf ou après de faire le tawaf. Je peux descendre, faire mon tawaf et je me coupe les cheveux après et je me désacralise, mais je ne peux pas me désacraliser si je n'ai pas coupé mes cheveux. Donc, c'est plein de règles et spécifiques et bien, bien structurées. Ensuite, je reviens à Minen, parce que je suis obligé de dormir à Minen, dans les tentes. Et le lendemain, je vais jeter les 3 jamarates, la petite, la moyenne et la grande. Pourquoi je jette les jamarates? Pour dire, maintenant que je suis propre, shaitan, tu ne m'auras plus. Ça y est, je te lapide. C'est fini entre toi et moi. Il n'y aura plus de haram. Je ne vais plus me salir à cause de toi. Donc je suis droit, la petite, la moyenne et la grande. Je jette 7 cailloux-là, 7 cailloux-là et 7 cailloux-là. Ça fait 21 cailloux le lendemain, le 11, qu'on appelle Yom al-Qarr. Où là aussi, je suis obligé de me sédentariser. C'est pour ça qu'on appelle ça Yom al-Qarr. Parce que astaqirru fi Mina, je reste à Mina jusqu'au 12e jour. Le lendemain, le 12e, je jette encore les cailloux. Et là, je peux partir. Qu'on appelle Yom al-Farr. Là, je peux partir. C'est pas Yom al-Qarr, ou Yom al-Farr. Le 12e jour, je pars, je quitte Minan pour enfin parachever mon pèlerinage avant de rentrer chez moi en France. Eh bien, je fais mon tawaf al-Wada', qu'on appelle la rotation ou bien la circumambulation d'adieu, où je vais dire adieu à la Kaaba et je quitte la Kaaba pour aller enfin rentrer chez moi et à ce moment-là être bien entendu avoir rempli les conditions du grand Hajj. Donc voilà ce que c'est que le grand Hajj. C'est toutes ces étapes-là. Mais maintenant, souvent, il y en a qui vont aussi à Médina, ils en profitent pour aller à Médina, visiter la tombe du prophète, etc. Mais tout ça, c'est surérogatoire et ça ne compte pas dans les rites du grand pèlerinage. Sur celui qui le fait pas, c'est pas grave. Mais pourquoi gâcher une visite où vous avez fait 6000 kilomètres jusqu'à Mecca?
Une fois qu'on est sur place,
autant y aller. Voilà. Donc les gens vont, pour la plupart du temps, faire passer quelques jours à Al-Madin, Al-Munawwara, afin de procéder à la visite de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam.
Alors on aura l'occasion de reparler du Hajj, hein, puisque c'est la saison. Vous redonnez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, Imam Abdelali.
Oui, pour la Omra.
Ceux qui veulent vous interroger.
Pour la Omra et pour le Hajj, vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00. Je fais des Omra tout au long de l'année. Je fais aussi des Omra et des Hajj par délégation, par procuration, pour une personne décédée, malade ou qui n'a pas la possibilité de faire le Hajj ou le Omra. Nous avons des étudiants là-bas qui peuvent accomplir le Hajj. Moi, ils me servent à m'accompagner pour s'occuper de mes pèlerins. C'est pour ça que je suis intéressé par cela. Donc, n'hésitez pas à m'appeler au 06 29 25 35 00. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.